Vous écoutez France Culture.
19h03 sur France Culture, direction Biarritz pour retrouver Laurent Goumard en direct du FIPA.
Merci Stanislas Vazak, on vous retrouve à 22h pour le journal de la rédaction. À tout à l'heure.
FIPA, Festival International de Programmes Audiovisuels, Biarritz.
Eh bien oui, ce soir nous sommes au FIPA, Festival International des Programmes Audiovisuels à Biarritz, un marché de documentaires, de reportages et de fictions destinés à la télévision, le rendez-vous de toute la profession pour une manifestation ouverte au public comme nous. En public dans la grande salle de la Gare du Midi et en direct donc sur France Culture. Il sera question de séries télé, de documentaires chantés, d'autobiographies documentées, de productions et même de Julie Lescaut. Avec Dominique Jubin et Judith Louis, respectivement directrice adjointe de la fiction à Canal+, et directrice de la fiction à Arte, on fera avec elle un état des lieux de la fiction télévisuelle française au moment où Julie Lescaut vient de prendre sa retraite sur TF1. C'est tout un symbole. Benoît Lagan, plateau documentaire et mélange des genres.
Oui, avec David André qui signe Chante ton bac d'abord, un documentaire enchanté, portrait de 6 lycéens du Pas-de-Calais, l'année de leur bac. Et puis avec Philippe Aractinji qui va présenter ici même Héritage juste après le rendez-vous, un documentaire autobiographique sur l'histoire de sa famille à travers les guerres au Liban entre archives, films amateurs et photographies familiales.
Et tout de suite, c'est le journal de la culture spécial FIPA avec Xavier Martinet qui est ici avec nous, in situ, Brésil et numérique au programme. Bonsoir Xavier Martinet.
Bonsoir Laurent.
Du financement de la création sur Internet à la nécessité croissante de coproduction, il n'y a qu'un pas au FIPA, un pas géographique, puisque ces deux débats se sont tenus à quelques mètres l'un de l'autre, et un pas logique puisqu'il a été question, dans les deux cas, de qualité de la production.
Oui, alors que vous vous rappelez tous que c'est cette semaine que France Télévisions a d'ailleurs annoncé la mise en place d'un indice de qualité de ses programmes. Or, c'était aussi un des enjeux du débat de la matinée, débat en présence d'Aurélie Filippetti sur le financement de la création sur Internet, et à noter justement dans ce débat la présence des deux diffuseurs nationaux qu'on peut dire spécialistes des programmes web, Arte et France Télévisions, avec pour les deux chaînes, ou plutôt le groupe et la chaîne, un développement de plusieurs années pour ce qu'on appelle aujourd'hui les web œuvres. Alors pour le financement chez France Télévisions, c'est à peu près 3 millions d'euros par an qui sont dépensés dans ces programmes, dans un contexte où le groupe dépense 74 millions d'euros pour son développement numérique. C'est ce qu'il fera en 2014. Alors ce n'est pas beaucoup, 3 millions sur 74 pour faire de la qualité surtout. Eh bien si, répondait tout à l'heure le numéro 2 du groupe, c'est Bruno Patino, qui voit la télévision connectée comme une troisième phase du développement numérique, mais aussi créatif.
Quand sur nos plateformes numériques, pratiquement 100 000 personnes vont regarder Einstein on the Beach, c'est évidemment quelque chose d'incroyable et qu'on n'obtiendrait pas, même à la télévision, en linéaire. Mais au-delà de ça, je crois qu'on s'oriente de plus en plus vers une triple mesure de la télévision. Il y a la mesure quantitative qui est très importante, il y a la mesure qualitative. On voit, on est tous à la recherche d'indices qualitatifs qui mesurent la qualité des programmes, et pas seulement des programmes de France Télévisions. Mais il y a aussi la troisième chose qui s'appelle l'engagement. C'est la façon dont, à un moment donné, un programme vous implique ou implique une sorte d'adhésion, d'action. Et ça, les extensions numériques permettent de le mesurer. Quand dans Plus belle la vie, à un moment donné, on met un outil de réalité. On demande au public de répondre à un personnage de fiction en racontant sa propre expérience réelle, et qu'on mélange fiction et réalité, ben on voit, si vous voulez, que là, c'est une nouvelle forme de narration qui arrive. Et donc, ce que ça apporte à France Télévisions, c'est simplement la réinvention de son métier et du fait que le téléviseur commence à s'ouvrir à de nouveaux usages. Et cette année, nous sommes en plein dans cette phase-là de développement supplémentaire.
Et ce développement des productions numériques impliquerait aussi plus de coproduction ?
Alors oui, là, c'est ce qu'a suggéré Bruno Patino au milieu du débat, en disant que le rôle des diffuseurs, c'est-à-dire les chaînes de télévision traditionnelles, diffuseurs et producteurs, serait amené à se redéfinir du fait même du système de multidiffusion qui est à l'œuvre sur Internet et la télévision connectée. Alors malheureusement, il n'a pas eu le temps de développer ce point dans l'interview, mais les coproductions, alors là, on ne parle plus d'Internet, c'était aussi justement le thème de cette deuxième rencontre, donc à quelques pas du casino de Biarritz, cette fois avec des producteurs brésilien. Alors le Brésil, bien sûr, il est plus connu en France pour ses telenovelas commerciales que pour ses documentaires, mais il faut savoir que les subventions étatiques à la production indépendante viennent de quintupler pour l'année 2014. Elles atteindront 190 millions d'euros. Alors les coproductions, c'est intéressant, mais le problème, c'est encore la diffusion, m'expliquait un des réalisateurs présents au débat. Il s'appelle Thiago Campos. Il présente son premier long métrage à Biarritz, un long métrage qu'il veut de qualité.
De mon niveau, je parle de mon niveau, documentaire très petit du nord-est du Brésil. On arrive à faire un film avec peut-être 20 000 euros, très content. Donc c'est clair que les gouvernements, ils sont en train de faire des espèces de facilitations pour les investisseurs coproduits Brésil-France pour essayer encore de renforcer les productions brésiliennes pour que ça puisse sortir en télé, à télé à câble. Par contre, la TV ouverte, vraiment, c'est presque pas possible parce qu'on n'est pas comme vous ici. Le télé public est fort. Et c'est surtout les télé commerciales qui dominent. Et il y a une chaîne, la télé Globo, qui peut-être ils doivent avoir 90% de toute l'audience. Donc c'est vraiment massacrant.
En tout cas, du côté du festival aussi, il y a un intérêt bien compris pour ces productions brésiliennes.
Oui, et ça se voit cette année, puisque ce sont 6 documentaires qui seront présentés, dont 2 en compétition officielle. Alors, ça témoigne d'une volonté de s'ouvrir sur des relais internationaux, autrefois difficiles à trouver pour le FIPA, on en a souvent fait part. C'est ce que reconnaissait d'ailleurs le délégué général du FIPA, François Sauvagnargues, tout à l'heure. Mais aussi, dit-il, parce que la période des telenovelas commerciales, donc celle de TV Globo, serait en train de passer, et puis la qualité de la production elle-même serait en train de changer.
Je dirais que c'est un peu tous les gens. Aujourd'hui, il y a, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'il y a déjà des coproductions de documentaires et des coproductions de fiction, puisque récemment est sorti en salle en France Amazonia, qui est une coproduction entre Gédéon d'un côté et une société de production au Brésil, Goulan, et qui a plutôt pas mal marché, parce qu'ils ont fait plusieurs centaines de milliers d'entrées. Donc ça, c'était un projet un peu exceptionnel, parce qu'il y a un très gros budget, mais il y a déjà dans les tuyaux au moins une dizaine de projets de coproduction entre la France et le Brésil sur des documentaires, sur des sujets variés, le foot, la Coupe du Monde évidemment qui arrive, et toute une série de sujets qui sont liés au Brésil, qui est une mine de sujets pour le coup. Et côté Brésil, il va y avoir un gros développement aussi des séries de fiction. Ils ont un savoir-faire, et donc du coup, je suis sûr qu'il y aura des possibilités de trouver des sujets et donc des partenaires pour des séries internationales qui puissent intéresser les Européens.
Et d'autant plus que j'ajoute que l'audiovisuel brésilien, c'est intéressant, est aussi une porte d'entrée vers les diffuseurs africains qui sont singulièrement absents du FIPA depuis des années.
Peut-être des réactions de la part de nos invités, Judith Louis, Dominique Jubin, David André. Dominique Jubin, je vous vois prendre le micro.
D'accord. peut-être plutôt sur le transmédia, sur le développement Internet, qui est
le dossier de Bruno Patino, en effet.
Oui, exactement, qui est effectivement le côté multiplateforme et quelque chose, et les résonances que, par exemple, sur des programmes comme des séries télévisées, on peut avoir l'exploitation sur différentes plateformes de différentes façons de l'extension de l'univers d'une série. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant sur lequel qui est un chantier pour nous notamment.
Bonalagan.
David André, vous qui avez été créateur d'une télé sur le net, TV Lab, je crois. Vous avez été fondateur, un des membres fondateurs, non ? Vous n'avez pas participé à ça ?
Oui, il y a très longtemps, vous avez ma fiche Interpol.
Ben voilà, votre regard du coup sur les développements sur le net, notamment pour le documentaire ou pour la fiction ?
Alors je ne suis pas spécialiste, mais je vois des choses qui se font. Tout le monde parle beaucoup du travail de David Dufresne, par exemple. On voit les possibilités. J'avais eu l'occasion de travailler d'ailleurs pour Canal Plus sur l'avenir de même dans la presse. En fait, la convergence entre l'expérience de l'Internet, les contenus, même les jeux vidéo, je pense que tout ça avance vers effectivement une convergence sur les modes de récit entre le documentaire et même des expériences à vivre sur Internet, c'est sûr.
Judith Louis, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter sur ce dossier ?
En tout cas, sur le lien entre, en effet, la fiction et le bimédia, c'est vrai que moi, je trouve que c'est vraiment un espace très, très important pour travailler le récit. C'est de se dire comment on raconte une histoire, comment on peut la raconter autrement en fonction de ce support-là, qu'on soit sur des récits transversaux qui vont d'Internet à l'antenne, aux tablettes ou pas. Mais c'est vrai que je trouve qu'en fiction, c'est presque encore plus difficile qu'au documentaire, parce que mine de rien, en fiction, on a envie qu'on vous prenne par la main et qu'on vous raconte une histoire. Donc c'est vrai que tout le côté un peu interactif me paraît en tout cas très délicat et qu'il y a vraiment quelque chose à inventer de ce genre-là sur le récit.
Alors, puisqu'on est ici au FIPA et que nous avons deux professionnels de la fiction, quel sentiment sur cette édition? Est-ce qu'il y a des choses marquantes que vous avez pu voir cette année, Dominique Jubin?
Alors, je suis loin d'avoir tout pu voir. Des choses marquantes, j'ai vu des choses très intéressantes, des choses totalement révolutionnaires dans le corpus de ce que j'ai vu, non. Après, voilà, encore une fois, j'ai peut-être pas vu la chose révolutionnaire. Non, j'ai vu des choses très intéressantes du côté des... en fiction, hein, je me suis vraiment cantonnée à la fiction, du côté des Anglais, comme d'habitude, du côté des Belges, des Flamands, du côté du Danemark, bien sûr. Voilà, la fiction européenne, les séries notamment, continuent. Le beau sillon qui est en train de se creuser continue. Voilà.
Ce que vous aviez vu de révolutionnaire, c'était l'année dernière?
L'année dernière, je crois qu'on avait tous été... Enfin, le souvenir que je garde, j'avais vu un certain nombre de belles choses, mais Utopia, qui était une production pour... Sky, non, BBC 4, Channel 4, je ne sais plus. En tout cas, pour une Channel 4, oui, était quelque chose de
en quoi,
totalement renversant. La narration, la direction artistique de cette série, le degré où elle portait les personnages. Il y avait un côté très BD qui était totalement assumé, qui souvent peut ne pas fonctionner en fiction et qui, là, pour le coup, marchait complètement.
Judith Louis.
Je vais un peu répéter ce qu'a dit Dominique. Moi, j'ai le même sentiment. Les Anglais aussi. Alors, malheureusement, il ne faut pas me lancer sur la fiction britannique, puisque je suis une immense fan, donc on ne m'arrête plus. Mais évidemment, Utopia l'année dernière, mais je crois que ça avait été le FIPA d'or, d'ailleurs. Et là, cette année, pareil, on a vu pas mal de fiction britannique, pareil, belge et flamande, qui sont vraiment, en termes de séries, des choses très, très intéressantes.
Le rendez-vous Festival international de programmes audiovisuels.
Plateau Fiction française avec vous, donc Judith Louis, directrice de l'unité fiction d'Arte, et vous, Dominique Jubin, directrice adjointe de la fiction de Canal+, deux chaînes de télévision qui ont démontré depuis plusieurs années leur savoir-faire en matière de téléfilms et de séries, un genre qui a été longtemps sous-exploité à la télévision. Je pense aux réussites de Carlos, Braco, Les Revenants, Engrenage, ça c'est pour Canal+, ou encore Ainsi soit-il, Odysseus et Xanadu, ça c'est pour Arte. Une première question sur la fin d'une série télé très populaire sur TF1, c'était hier soir, avec le tout dernier épisode de Julie Lescaut, ça a duré 22 ans. Comment vous réagissez à cet arrêt? Est-ce qu'on peut y voir un symbole de la fin d'une époque, c'est-à-dire l'héroïne récurrente, le 90 minutes bouclé et surtout diffusable, c'est ça l'intérêt, de point de vue industriel, à n'importe quel moment et dans n'importe quel sens? Judith, symbole d'une époque finie?
Je sais pas, parce que c'est étonnant que de toute façon ça continue à faire des succès d'audience hallucinants, que ce soit sur les chaînes comme TF1 qui les ont lancés ou que ce soit sur les chaînes de la TNT, quand ces grandes séries, qui même celles qui ont été arrêtées avant, Les Cordiers et autres, sont rediffusées et continuent à faire des énormes succès d'audience. Donc ça veut dire que ça a vraiment marqué les esprits et imprimé la façon de faire de la série en France. Donc ce qui serait bien maintenant, c'est qu'on continue plutôt justement sur la lancée de Canal+, qui, je trouve, en termes de fiction française, a été vraiment très moteur et locomotive depuis 10 ans pour aller et continuer à aller sur du très, très feuilletonnant.
Dominique Jubin, commentaire sur cet arrêt?
Bon, les séries finissent toujours par s'arrêter à un moment donné, même EastEnders à un moment peut-être. Donc c'est bon, à un moment donné c'est normal. Je ne sais pas si c'est symbolique de quelque chose. Le fait est qu'une nouvelle génération de séries arrive sur toutes les chaînes, quelles que soient les chaînes publiques ou les chaînes plus payantes comme nous, et même si on fait des choses très très différentes. Une nouvelle génération de scénaristes qui a vécu aussi, qui a biberonné les séries, qui a regardé des séries toute sa jeunesse et qui a envie d'en écrire. Donc on n'écrit plus pareil, c'est sûr.
Benoît Lagan.
Alors Arte et Canal+ font partie de ces chaînes qui ont joué un grand rôle dans le renouvellement des formes de fiction télé. Dans l'histoire d'Arte et de Canal+, quelles sont les productions qui ont peut-être changé la donne? Vraiment le moment où vous avez senti le tournant, la production qui a vraiment fait tout changer.
Dominique Jubin.
Moi, je dirais que c'est Engrenage, la toute première série qu'on ait lancée. Qui...
Sur Canal,
effectivement. La première série de 52 minutes qui ne soit pas de la sitcom. On avait eu une ère sitcom avant ça, qui était un peu les prémices d'une nouvelle écriture et d'une façon d'afficher un label très Canal. Mais la première vraie série feuilletonnante, c'est Engrenage. Elle a marqué quelque chose. Après Engrenage, je pense que l'autre grand tournant, ça a été Les Revenants. L'année passée.
Judith Louis, chez vous, à Arte.
Alors, à Arte, c'est le tournant pris par François Sauvagnat, qui était le directeur de la fiction il y a 3 ans, qui, en effet, s'est vraiment battu pour imposer les séries de 52 minutes feuilletonnantes. Donc, c'était le vrai tournant, ça a été, je pense, la première, Les Invincibles. Après, il y avait Fortune et Xanadu. Et l'autre très grand tournant, aussi par le côté très atypique et étonnant, c'est Ainsi soit-il. Voilà.
Ça, gros succès public,
prime,
en plus.
Voilà. D'abord, c'était la première qui était diffusée en prime time sur Arte. Gros succès public. La deuxième saison vient d'être terminée. Elle est assez étonnante et jubilatoire.
À ce propos, deuxième partie de soirée, ça c'était pour Les Invincibles. Il a fallu du temps pour que ça arrive à 20h30. C'est vous, Judith Louis, qui avez vraiment assuré le fait qu'il fallait que ça passe en prime time. Pour quelle raison ça a pris beaucoup de temps? Qu'est-ce que Arte n'y croyait pas aux séries en prime time?
Pour le coup, je crois que c'était vraiment une politique de fond, de refonte de la grille à l'arrivée de Véronique Hella et après de Vincent Mellet. C'est-à-dire que Arte, comme chacun sait, est une chaîne franco-allemande. Mmh. Et je crois que c'est encore difficile d'arriver à se dire que la série est un objet culturel qui mérite d'être en prime time. Donc le combat, il était là et il continue d'être là, de dire, vous voyez, on peut en effet faire des choses et s'inscrire dans cet objet culturel-là.
Benoît Lagan.
Alors, beaucoup de scénaristes, et on en a reçu beaucoup au rendez-vous, se plaignent souvent de l'interventionnisme incessant des responsables des unités fiction sur leurs œuvres. Alors, quel genre d'interventionniste êtes-vous? Alors, Dominique Jubin, pour Canal.
C'est vrai qu'on est interventionniste. Après, on essaie de l'être à bon escient. Ce qu'on demande à un auteur, c'est de nous apporter une idée forte et une vision. Et de ça, on va être très, très respectueux. Après, on va se livrer à un accompagnement dans ce qu'on appelle le développement, c'est-à-dire passer de l'idée à des scénarios complètement dialogués, prêts à être tournés, et l'écriture d'une saison entière d'une série. Ça peut faire 8 épisodes, 10 épisodes, 12 épisodes, donc c'est un gros, gros travail. C'est des relations humaines. Il s'agit de lire de manière éclairée, de conseiller, d'orienter. Il ne s'agit pas de se substituer au scénariste. Évidemment que non, sinon on serait scénariste nous-mêmes. Voilà, on ferait le travail, on ferait tout. C'est ni notre métier, ni notre place, ni notre compétence. C'est paradoxal parce qu'en fait, les séries dont on est les plus contents, qu'on revendique, les séries qui durent, qui nous représentent le mieux, qui représentent le mieux Canal+, sont en général des séries sur lesquelles ce travail-là se fait de manière extrêmement harmonieuse. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas des discussions de travail par moment, mais en fait, on est tous embarqués sur un bateau qui est le même, avec une envie qui est de faire le programme le plus beau possible à l'arrivée.
Et vous, Judith Louis, quel interventionniste êtes-vous?
Assez important aussi, mine de rien. Je crois que quand les gens arrivent pour la fiction d'Arte, en effet, comme il y a une vraie image, j'espère, à juste titre de soutien et d'accompagnement du regard de l'auteur et du réalisateur. On peut être parfois surpris de se dire, mais quand même, à Arte, ils sont très, très, entre guillemets, interventionnistes aussi. Mais parce que c'est aussi, comme disait Dominique, c'est de l'accompagnement. Voilà, c'est qu'à un moment donné, on va vers où, on fait quoi, et on y va ensemble. Donc c'est vraiment c'est ça. Et puis pour les séries, c'est tellement tellement long à écrire, mine de rien, que forcément à un moment donné, même si on n'est pas scénariste, ben, on met les mains dans le cambouis.
J'ajouterais que ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on apprend tous à écrire des séries en France. C'est-à-dire que c'est aussi un genre nouveau, un art nouveau, que la télé n'avait plus pratiqué depuis un certain temps. Donc, quelque chose de l'ordre de l'habitude s'est perdu. C'est-à-dire, vous parliez de Julie Lescaut. C'est du 90 minutes. C'est la télé, pendant très longtemps, la télé française, a écrit sur le modèle du long-métrage et sur le modèle aussi de création, c'est-à-dire des auteurs-réalisateurs. Les séries, ça suppose autre chose, ça suppose une autre façon de travailler, ne serait-ce que parce que c'est très très long à écrire, comme le disait Judith, et qu'une seule personne n'y suffit pas.
À ce sujet, Benoît Lagan.
Oui, il y a 2 ans, Dominique Jubin, dans un entretien pour la revue Esprit, vous expliquiez que les chaînes et les auteurs devaient apprendre à comprendre et à utiliser les contraintes télévisuelles. Et ces contraintes, c'est un public non captif, le choix du consensuel et des techniques d'écriture propres à la sérialité. Or, ce qu'on a souvent remarqué, c'est que vous faites appel souvent à des cinéastes pour ces productions-là. Alors, on pense à Fabrice Gobert, Éric Rochant, Yann Kounen. Pour Arte, ça va être Bruno Dumont bientôt. Et ce qui est mal perçu par certains téléastes qui pensaient enfin pouvoir livrer des œuvres d'auteurs en tant que téléaste, comment vous percevez ça? À la fois, vous demandez une technique propre et vous faites appel à des gens qui ne sont pas habitués à écrire pour la télévision.
On fait appel à des gens qui ne sont pas habitués à travailler pour la télévision, entre autres. On fait aussi appel à des
bien
gens
sûr.
Qui travaillent pour la télévision.
Engrenage,
et dans
exemple.
Une très large part, évidemment, mais pas qu'engrenage. Hein. Non, après, il se trouve que les cinéastes auxquels on fait appel sont des gens qui s'intéressent beaucoup à la série. Voilà, qui trouve un intérêt majeur à venir faire de la série à la télévision. Donc, il faudrait leur poser la question de pour quelle raison, pourquoi se soumettre à ces contraintes horribles. Et aussi parce que, effectivement, alors par rapport à la citation sur la revue Esprit, il y a juste un truc qui me choque. Bon, vous l'avez trouvé, donc j'ai dû le dire et l'écrire même, mais sur le choix du consensuel, c'est juste
oui,
consensuel,
non.
C'est un mot qui me choque un tout petit peu, je ne pense pas avoir dit ça.
Toucher le plus grand public.
Ah oui, d'accord, ok.
On a traduit, oui, absolument. On a mal traduit.
Ah ouais, vous avez traduit aussi, une adaptation.
Enfin, on a trahi, c'est exactement ça. Une dernière question pour vous, Judith Louis. Ce qui est intéressant, c'est que c'est différent d'ailleurs, Canal+ et Arte, sur un point notamment. Judith Louis, vous gérez les productions et les achats de séries étrangères, ce qui n'est pas le cas à Canal+. Quels sont les avantages d'avoir de faire les deux en même temps, en fait, de produire une ligne éditoriale?
C'est exactement ça.
Ah, c'est ça.
C'est-à-dire que, du coup, la ligne éditoriale de la fiction d'Arte se construit en répercussion entre les coproductions françaises et les achats de séries ou les préachats. Et pour donner un exemple assez fameux, on s'est vraiment servi de rentrer en préachat dans la série Real Humans suédoise sur les robots. C'était aussi une façon d'essayer de montrer qu'on pouvait faire de l'anticipation en série et sur Arte. Et du coup, on a des projets en développement, en coproduction, de séries d'anticipation françaises, si jamais on y arrive.
L'anticipation est beaucoup à la mode en ce moment à la télévision, que ce soit sur Arte ou sur Canal+. On
peut
y revenir, mais c'est vrai que c'est le symptôme de quelque chose qui se rejoue d'ailleurs depuis les années 70, puisqu'il y avait des grandes séries d'anticipation françaises. On y reviendra un autre jour.
Mais je crois que c'est vraiment raconter la société de demain revient raconter celle d'aujourd'hui. Voilà,
et sans passer par la science-fiction, parce que c'est quand même un peu moins cher.
Exactement.
Et puis, pardon.
Le rendez-vous FIPA Biarritz, c'est sur France Culture.
Vous vouliez ajouter quelque chose?
Du coup, je crois que j'ai perdu le fil de mon idée.
Bon, ben alors on y va. Plateau documentaire musical avec vous, David André, journaliste, grand reporter, prix Albert Londres 2011 pour votre documentaire sur l'histoire d'un homme condamné à mort américain. C'était Une peine infinie. Vous avez passé plusieurs années au sein des rédactions de France 2, France 3, de CAPA. Depuis 10 ans, vous êtes documentariste indépendant avec des films sur la crise de la presse, la vie amoureuse des prêtres, c'est vraiment formidable d'ailleurs, ou encore sur les coulisses de la campagne présidentielle de 2012. Ça s'appelait Les stratèges. Et cette semaine, vous êtes au FIPA pour présenter en avant-première Chante ton bac d'abord, votre dernier film documentaire pour France Télévisions. Sublime, forcément sublime, comme
Merci.
Dirait l'autre. On y suit 6 lycéens de Boulogne-sur-Mer pendant leur année du bac. Les questions de leur avenir, leur rapport aux parents, aux enseignants, les relations amoureuses. Un documentaire social, puisqu'il s'inscrit dans une ville touchée par la désindustrialisation. J'étais sûr que j'y arriverais pas.
Désindustrialisation,
c'est
Laurent.
Parfait. On devrait jouer à ça. Mais vous lui avez donné la forme d'une comédie musicale, bref, une sorte de Ken Loach musical. On en avait parlé, je me souviens, quand on s'était vu la première fois. Il y avait pour vous une relation entre cette ville portuaire et le fait de travailler la comédie musicale, David André?
Je suis flatté, Ken Loach. Non, entre Boulogne et,
Boulogne-sur-Mer et la comédie musicale, non, pas vraiment. Ah, mais voilà. Même si on peut y voir y a des villes portuaires célèbres qui ont donné des
lieux
à des comédies musicales. Non, les choses se sont faites un peu plus prosaïquement par hasard. Je cherchais un lycée où travailler sur, voilà, où commencer à essayer de lancer ce projet. Et puis à un moment, je me suis retrouvé à Boulogne-sur-Mer. Je me suis dit, en fait, voilà, ça c'est vraiment le lycée Mariette est un grand lycée à Boulogne-sur-Mer. Il y a 3000 élèves. Je vais probablement trouver dans ce lycée la bande que je cherche, dont je veux raconter l'histoire. Et il y avait un décor social et aussi physique, visuel, qui m'intéressait.
Benoît ?
Oui, alors pour se faire une idée de la tonalité du film, vous avez choisi de monter deux moments, deux extraits de ce film pour nous ce soir. Vous pourriez peut-être nous les situer, ces deux moments du film qu'on va voir et qu'on va entendre ?
Alors, outre la particularité donc, de ce film qui est donc un documentaire qui contient 11 passages chantés, il y a également une narratrice qui est une des lycéennes qui raconte au passé, enfin qui raconte l'année qu'elle a passée. Elle a pris des notes pendant toute l'année pour faire ça. Et donc là, on va l'entendre au début de l'année. C'est la jeune Gaëlle dont le papa travaille sur le port. Il est électricien, il s'occupe des grues, il a construit le tunnel sous la Manche, il a perdu plusieurs fois son boulot. Et Gaëlle, au début de l'année, donc elle a un petit conflit avec son papa, donc on va entendre une des scènes où Gaëlle et son père discutent de l'avenir de Gaëlle. Et puis juste après, il y a la première chanson du film que Gaëlle chante dans un bus.
Et tout ça dans un documentaire. Extrait.
Moi, je pourrais pas t'offrir un remake d'études dans une autre direction.
Mais je sais bien, mais si tu fais des études comme ça, peut-être que ça marchera pas,
Mais moi, j'aime pas quand tu me dis peut-être que ça marchera pas.
Mais oui, mais je veux dire, tu peux toujours rebondir ton expérience que t'as eue là, tu peux toujours l'utiliser pour faire autre chose. Puis même,
toi, tu
vois ça comme un risque, mais moi, je vois ça comme presque naturel, en fait.
Ouais, mais je veux dire, aujourd'hui, tu peux pas prendre de risque.
Bah, si, je suis désolée.
Tu peux plus prendre...
Je veux dire, je vais pas faire quelque chose qui me plaît pas et que je sais que ça va pas me plaire parce que j'ai peur, parce que mon Dieu, il y a la crise et tout. Enfin, je veux dire, des crises économiques, on a toujours eu, on en aura tout le temps. Hein.
Sinon, faut
pas que tu t'affoles comme ça.
Comment ?
Faut pas que tu t'affoles comme ça.
Bah, je m'affole pas.
Mais bah, si, quand même.
C'est quand même important de...
Si vous avez 17 ans, si un beau jour vous les avez eus. Si vous êtes encore enfant, au fond, ou si vous n'y croyez plus, c'est l'histoire de nos 17 ans, comme vous les avez vécus. C'est l'histoire de nos parents, comme vous l'êtes devenus. Une ville au bord de mer, loin de ces années dorées passées. Une ville au grand air, aux grands airs désenchantés. Mais quand on a 17 ans, on se fout évidemment du vieux monde des parents, de leurs avertissements. Pas maintenant, pas maintenant. Si vous êtes adolescent, ou si vous l'avez été, est-ce que le monde a changé ?
David André, juste une question. Comment ces adolescents, leurs parents, les enseignants, que l'on voit aussi dans le film, ont compris cette démarche documentaire et musicale ?
En fait, au début, il faut que je confesse, car j'ai fait des films sur les prêtres, donc je confesse que j'ai menti. C'est-à-dire que je suis allé dans ce lycée sans dire au démarrage que j'avais envie d'ajouter une dimension un peu poétique, un peu artistique au documentaire. J'ai menti parce que je ne voulais pas que les gamins, entre guillemets, que j'approchais dans ce lycée, soient motivés par l'envie d'un espèce de truc de Star Academy, ouais, ou je ne sais pas quoi, de vouloir passer à la télé pour chanter. Et donc je leur ai dit tardivement, j'ai tourné je pense 2-3 mois avant de commencer à leur dire, sans même savoir d'ailleurs s'ils savaient chanter, mais emporté par ma folie, je me disais au point où on en est, voilà. Et en fait, bon, je me disais que tout le monde peut à peu près chanter, puis si on sait pas chanter, on peut parler sur de la musique. Et je pense que les gamins, ça les a libérés parce qu'ils croyaient que ça allait être un énième film, enfin un documentaire sur les ados, on les regarde comme des bêtes curieuses et tout ça. Là, d'un seul coup, ils se disaient, on peut s'approprier le truc, c'est génial, on va se marrer, tout ça. Les parents, ils étaient, tant que je ne dérangeais pas trop la scolarité de leur progéniture pendant cette année de terminale, ils trouvaient ça sympathique. Quant au lycée, je pense qu'ils vont être, assez surpris parce que les gens de du lycée ont suivi ça de loin, pas vraiment, mais voilà, ça va être une surprise.
Benoît Lagan.
Oui, Philippe Aracknagi, on va parler de votre film tout à l'heure, mais vous avez aussi, vous tournez une comédie musicale, mais c'était une fiction. Bosta, une comédie musicale dans les rues de Beyrouth, dans un bus qui déambulait ensuite. Quel regard sur la démarche là, de David André, un documentaire chanté ?
Magnifique. J'ai vraiment beaucoup aimé le film. Je trouve que pour réussir des genres comme ça, mélanger les genres, il faut savoir réaliser. Et il faut avoir le sens de la musique. Et voilà, on a affaire à un grand réalisateur, honnêtement, je le dis en toute sincérité. J'ai vraiment été touché par ce film. Et par le fait que les choses peuvent se mélanger, on n'est pas obligé de rentrer dans une case. Et j'adore les gens qui essayent de casser les cases et de sortir justement des genres. Je me demande comment il a fait pour le produire, parce qu'en général, les chaînes.
On va lui poser la question.
Ils veulent toujours vous faire rentrer dans une case, mais moi, je n'y arrive pas tout le temps. Donc voilà, bravo aussi pour la production, pour vendre un projet pareil.
Oui, vendre un projet à Boulogne-sur-Mer, en comédie musicale, un documentaire.
C'est pas évident.
Non,
c'est pas évident. Mais cela dit, moi j'ai passé du documentaire pur et dur aussi au film musical, et ça a été très difficile de vendre. D'ailleurs, personne ne voulait l'acheter. On l'a fait quand même, quoi.
Alors David André, difficile à produire ?
Ce qui est rassurant, c'est qu'il y a des gens qui ont des problèmes mentaux semblables aux miens à France Télévisions, puisque quand je leur ai montré en fait, c'est une idée que j'avais depuis 4-5 ans que je traînais comme ça. Puis à un moment, j'ai fait un petit draft, enfin quelque chose d'une dizaine de pages, que j'ai montré à une bienveillante conseillère des programmes qui s'appelle Caroline Glorion, qui l'a elle-même transmis à son bienveillant directeur de l'unité documentaire de France 2. Et j'ai été très surpris, dont Fabrice Puchot. Et voilà, c'est un cœur romantique. Il m'a dit, ah oui, ce serait génial que ça existe et tout. Et après, moi, j'étais, pendant tout ce tournage, tout est extrêmement fragile. On n'est pas dans la fiction. Tout peut exploser à n'importe quel moment. Tout est. Et donc, jusqu'au bout, je me suis demandé d'abord si on arriverait à le faire. Et puis, je me suis surtout demandé si ça marchait d'un point de vue de la convention, parce qu'on est quand même dans des zones un peu étranges, enfin, un peu surprenantes, quoi. Ouais.
Vous réalisez, vous composez aussi la musique. Hein. Vous aviez composé dans le passé pour Dany. Vous disiez tout à l'heure, si tout le monde peut chanter, Dany a chanté, donc il n'y avait pas de raison. On est ici On est dans le film, donc au bord de la fiction, il y a la voix off de la narratrice, de la lycéenne, un texte très écrit, qu'elle a écrit donc a posteriori, un montage de plans de caméra très sophistiqué, vraiment. Et puis tout ça pose une question, jusqu'où peut-on aller dans le documentaire ?
Moi, je pense que on a raison à la fois de se plaindre du fait que le documentaire soit un mot aujourd'hui mis à toutes les sauces, y compris aux documents pas très ragoûtants parfois, des approches de reportage un peu trash, un documentaire de trucs. Bon. Et en même temps, c'est très difficile de cerner et de protéger et de sauvegarder, comme si c'était une espèce en voie nécessitant une protection, le genre documentaire. Je pense que c'est assez libre. Je pense que la seule ligne, finalement, c'est la ligne d'une forme de morale, je crois, une forme de respect des gens. Après, je pense que les dispositifs peuvent être libres, mais tant qu'on ne fait pas faire aux gens n'importe quoi, et tant qu'on. Enfin, c'est ma vision des choses, en tout cas.
Benoît, une dernière question.
Oui, vous, quel lycéen étiez-vous à 17 ans ? Vous saviez déjà que vous alliez être documentariste et journaliste ?
Pas du tout, j'avais un groupe de rock.
Ah, donc, ben voilà.
Voilà, la boucle est bouclée. Voilà, non, je faisais du rock quand j'avais 17 ans.
Le rendez-vous extérieur.
Autre documentaire et mélange des genres aussi, plateau documentaire autobiographique avec vous, Philippe Aracknagi, cinéaste franco-libanais. Tout de suite après le rendez-vous, vous allez présenter ici au FIPA votre dernier film Héritage dans cette salle. Un documentaire autobiographique puisque vous y revenez sur l'histoire de votre famille sur 4 générations, 100 ans d'histoire entre exil et guerre au Liban. Un film qui arrive après 2 films de fiction. Sur le Liban, Bosta, donc la comédie musicale, et puis Sous les bombes, qui avait des formes particulières. Par exemple, pour Sous les bombes, vous aviez tourné une fiction, mais pendant le réel de la guerre, avec des acteurs professionnels confrontés à des témoins qui ne l'étaient pas. Pourquoi revenir à la forme documentaire aujourd'hui pour conclure ce qui a la forme d'une trilogie ?
C'est une bonne question. Moi, je ne considère pas mon film comme un documentaire. Je considère mon film comme un film. Et en fait, le seul reproche que j'ai à faire à David, c'est qu'il a appelé son film documentaire, alors que pour moi, c'est un film. Et d'ailleurs, il y a une dimension cinéma réelle, dans le sens grand écran, dans le sens où il nous emporte. Et c'est difficile de dire ça, surtout quand on veut justement vendre son film, quand on veut aller dans des cases et on est obligé de rentrer dans des cases. C'est vrai que mon dernier film était un film qui était une fiction, mais qui était basé sur du réel. J'ai filmé avec deux acteurs et tout le reste était réel. Les autres jouaient leur propre rôle, les autres protagonistes. Les décors étaient faits par la guerre, pour ne pas dire autre chose. Ici, c'est un documentaire avec des bouts de fiction à l'intérieur. Mais bon, est-ce que j'ai fait un documentaire? J'en sais rien. Pour moi, j'ai essayé de m'exprimer. Et plus je mélange, et plus je suis content. Aussi, je viens d'une culture qui est un peu, j'appelle ça pour plaisanter, mezzé, comme les mezzé libanais. Donc, pour moi, c'est un mezzé d'image, mon film. C'est une culture de boulimique qui adore mélanger photos, archives, films familiaux. Et film familial et puis capsule de fiction, pourquoi pas, si ça marche, tant mieux.
Justement, en mélangeant archives familiales, photographie, film amateur, et revenir comme ça, comme vous le faites, sur l'histoire de votre famille, qu'est-ce que cela vous permet de dire du Liban, et surtout du Liban par rapport à son histoire, et dans son rapport à son histoire? Vous qui avez archivé, en fait, depuis très longtemps, qui va être votre propre documentariste, en filmant systématiquement vos enfants, votre famille.
Le film, en grande partie, est un devoir de mémoire. C'est-à-dire que nous vivons tellement de guerres les unes après les autres qu'on n'a pas le temps de regarder en arrière et d'archiver et de dire voilà ce qui s'est produit, etc. En plus, quand on vit des guerres civiles, souvent, c'est difficile d'écrire l'histoire et de dire voilà qui étaient les méchants, qui étaient les bons, et ainsi de suite. La guerre est souvent écrite par la plume du vainqueur. Et là, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu dans des guerres civiles. Et donc, je n'en pouvais plus de voir qu'on est en train de répéter notre histoire, en train de reprendre des guerres, et les gens ont un déni réel par rapport au passé, ne veulent pas voir le passé. Je parle du public libanais en particulier. Et tous qui me disent, fais-nous des histoires drôles, et c'est vrai qu'ils ont envie de voir autre chose que leur réalité de tous les jours. En même temps, si on ne regarde pas, on n'avance pas. Et je parle de ça, notamment dans une conversation avec ma mère, où je lui dis, nous sommes dans le déni, et on ne veut pas regarder en arrière. Donc j'ai fait ça par devoir de mémoire, pas simplement pour moi et pour mes enfants, mais aussi, je pense, je l'espère, aussi pour tous ceux qui sont dans le vent tourmenté. Voilà.
Benolagan.
Alors, pour se faire une idée de votre film, notre réalisateur Thomas Beau a fait un montage de quelques minutes pour que l'on saisisse vraiment la particularité de ce film, donc, entre documentaire, entre fiction, un montage son pour la radio, un montage image pour le FIPA.
On est où, là ?
Dehors.
Depuis quand on n'est pas revenu au Liban ?
Longtemps.
Tu te souviens, toi, la dernière fois qu'on est venu ici, Eve ?
Un mois ? L'année dernière !
Oui, l'année dernière !
Et ensuite, on est parti en bateau ?
Oui, le bateau français, mais de militaires.
Tentative échouée d'une conversation que j'ai eu envie d'avoir, mais n'ai pas su. Je la tenterai à nouveau, 4 ans plus tard.
On était partis en récré. Là-bas, je suis restée seule dans mon coin, sur un banc. J'étais triste. J'aimerais repartir chez moi. Chez moi, j'ai bien dit chez moi.
J'aimerais pas que mon mari part à la guerre. Et toi, tu es partie à la guerre ?
Non, moi j'ai toujours évité la guerre.
Et je pensais que tous les hommes partaient à la guerre.
Pas ton père, beaucoup. Pas ton père.
Je l'aime bien, toi.
Oui, Eve. Je n'ai pas pris part à la guerre. De la guerre, je me souviens de très peu de choses. C'est comme s'il me fallait revisiter tous ces fragments de souvenirs pour comprendre, atteindre l'essence de ce qu'il faut en retenir. La première fois que j'ai tenu un pistolet, j'avais 14 ans. Je me suis senti puissant.
Are you talking to me?
«
ce que l'on entend et ce que l'on voit ici, c'est la présence de vos enfants que vous n'avez cessé de filmer, on l'apprend dans le film. Et ce qu'on voit à la toute fin, et ce que l'on peut l'entendre aussi, c'est que vous faites basculer votre fils dans des images d'archives. Quel discours vous tenez à ce moment-là,
Philippe Barrache ? Quel discours à qui ? À mes enfants ou dans le film ?
Dans le film.
Alors, bon, on m'a dit que c'est des reconstitutions. En fait, ce n'est pas des reconstitutions. J'ai beaucoup hésité à faire un film pareil, parce que c'est un film sur moi, et je n'ai pas nécessairement envie de me mettre à nu devant tout le monde, moi et ma famille. En même temps, il y avait une urgence, j'avais envie de dire c'est la troisième fois que je voyage, c'est la troisième fois que je quitte mon pays, je suis en train de refaire la même chose que ma grand-mère, en train de vivre l'exil, comme ma grand-mère, comme mon père. Aucun de nous n'est né et n'est mort au même endroit. J'avais envie de faire quelque chose. Donc j'ai fait un premier chapitre, le premier chapitre du film. Et là, j'ai hésité. Et dans mes hésitations multiples, j'ai vu notamment Boris Cyrulnik, à qui j'ai montré le film. Et Boris m'a dit quelque chose de magnifique. Il m'a dit « Tu as fait ce que je n'ai pas pu faire ». Bon, c'est très, très intéressant, mais comment ? Et en fait, il m'a raconté que ce que lui a vécu pendant la guerre mondiale, il l'a tué. Il n'a rien raconté. À l'âge de 8 ans, il est venu pour raconter ce qu'il a vécu. Et on lui a dit, toi tu es un enfant, tais-toi, ça ne sert à rien de dire quoi que ce soit. Et un jour, sa fille est devenue metteur en scène et il est parti voir une des pièces de théâtre de sa fille. Et il a remarqué que sur scène, il y avait une scène que lui avait vécue, enfant, et qu'il n'a jamais racontée à son enfant. Et il me dit, tout ce qui n'est pas dit se répète, se transmet, pardon. Donc en fait, il faut transmettre. Moi, je me posais la question, est-ce qu'il faut dire aux enfants ce qu'on a vécu, ce par lequel on est passé ou pas ? Et il me dit, la meilleure manière de le dire, c'est de passer par le tiers, et le tiers, c'est l'œuvre artistique. Donc au lieu de le raconter aux enfants, je leur ai demandé de le jouer. Donc ce ne sont pas des scènes rejouées, c'est une manière de transmettre. Et c'est pour ça que j'ai trouvé cette technique entre fiction et documentaire.
Benoît.
Alors, adolescent, vous étiez payé pour photographier la guerre. Quels étaient vos employeurs et pourquoi vous avez décidé d'arrêter ? Parce qu'à un moment donné, vous décidez d'arrêter, Philippe Arachetin.
16-17 ans, hein, vous photographiez la guerre.
Oui, c'est-à-dire que, étant francophone aimant beaucoup la France et les Français, chaque fois qu'il y avait des journalistes français et vivant surtout sur la ligne de démarcation, on s'amusait à les amener là, dans les zones de guerre, quoi. Et on avait 16 ans, 14 ans, enfin on a grandi avec ça, quoi. Pour nous c'était notre quotidien. Et en fait, parfois ils venaient 15 jours et puis il n'y avait pas assez d'événements, donc ils ne photographiaient rien du tout. Et ils nous laissaient de la pellicule en nous disant, bon bah s'il y a une explosion, allez-y, faites des images, et nous on essaiera de les vendre pour vous et vous aurez votre commission, etc., quoi. Et en fait, malgré moi, j'étais photographe déjà un peu amateur à l'âge de 16 ans, quoi. Et donc, malgré moi, j'ai pris l'appareil et chaque fois que j'entendais une bombe, j'allais photographier au point où je me suis rendu compte que j'étais devenu un rapace qui ne cherchait qu'à photographier des morts et ça m'a un peu dégoûté. Du coup, j'ai arrêté la photo et je n'ai repris la photo que depuis peu de temps.
Le fait d'intégrer votre fils dans les images, c'est une façon de le mettre en scène, donc de le faire jouer. Et ça me rappelle que vous avez, par le passé, suivi des cours d'improvisation avant de passer à la réalisation. Et il me semble qu'il reste quelque chose de cette formation-là, et je voudrais savoir à quoi elle vous a servi dans votre travail de réalisateur par la suite, et même pour ce documentaire, ce film, excusez-moi, Philippe Arachetin.
Comment vous savez tout ça ? Effectivement, il travaille pour Interpol, notre ami. Je suis étonné en quoi l'improvisation me sert ? En fait, disons que je viens d'une culture orientale où tout est dans la parole, ce qui m'a posé problème, parce que quand je suis venu ici, tout est dans le verbe, il fallait tout écrire, et pour proposer aux chaînes, il faut qu'on ait un très bon texte, et ce que je ne savais pas faire. Mais l'improvisation, justement, permet de partir plus dans justement cette oralité, dans le jeu avec la parole. Et ça me correspond. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai pu faire Sous les bombes, mon film, mon avant-dernier film, qui est un film où on a improvisé pendant 10 jours des scènes après la guerre, et on a ensuite écrit le reste. Donc, c'est un mélange, justement, de spontané et d'écrit. Et j'adore ça, j'adore travailler avec le hasard. Souvent, je dis, le hasard, c'est mon premier assistant. Voilà.
Pareil pour vous, David André ? Ah, il faut retrouver le micro.
Oui, j'adore le hasard également.
Les cours d'improvisation, de votre côté, non. C'était le rock.
Oui, oui, non, c'est le, c'est oui, non, non, le, je m'en suis tenu au rock.
Benoît, une dernière question.
Oui, puisque il était question, alors je perds mes papiers. Oui, puisqu'il est question d'un film, donc pas d'un documentaire, pas d'une fiction, d'un film. Quels sont les cinéastes qui vous ont donné envie de passer du côté de la réalisation, Philippe Marc Tanguy?
Alors rien à voir avec ce que je fais. Pourtant, je croyais que très influencé, par exemple par Fellini, quoi, qui a un monde, un imaginaire assez fantastique, et puis aussi Terry Gilliam, par exemple, qui a fait Brazil, qui est un de mes films fétiches que j'ai vu une quinzaine de fois, des films comme ça qui sont très fantaisistes. Costa Rica aussi. C'est-à-dire que moi, quand je dis je suis boulimique, je le dis, c'est la première phrase de mon film. J'aime les films où il y a de l'énergie, où ça bouge tout le temps, où ça n'arrête pas. C'est pour ça que j'ai aussi beaucoup aimé le film Chante ton bac d'abord, parce qu'effectivement, il y a un sens musical et je trouve que la musique est nécessaire dans un film. La musique, je parle le tempo, quoi.
Le rendez-vous. Rendez-vous en direct de Biarritz, la session.
Vous parlez de musique, vous nous tendez une perche absolument magnifique pour la transition, Benoît Lagane, puisque oui, c'est la session tout de suite.
Oui, en direct depuis la salle donc de cinéma de la Gare du Midi à Biarritz, une session inédite ce soir avec Kezia Jones. Il n'est pas là, mais non, il était venu en novembre dernier dans le studio 108 à France Culture pour défendre son sixième album, Captain Rudyard, construit autour de la figure d'un super-héros du quotidien, sorte de Ziggy Stardust africain. On pourrait traduire Rudyard par coriace ou bourru. Kezia Jones a même mis en scène son personnage dans une BD, c'est ce que raconte Mathieu Conquet, qui l'avait programmé ce jour-là. Et dans cette BD, il raconte ses aventures dans Lagos. Alors on écoute et on visionne ici au FIPA Kezia Jones, puisque donc la session était filmée en novembre dernier. Vous pourrez la regarder sur notre site internet et puis donc pour le public ici en direct sur l'écran derrière nous. Kezia Jones était accompagnée de Michael Désir à la batterie et de Fred Dupont au clavier. L'occasion de voir notamment de près le jeu de la main droite de Kezia Jones. On écoute Memories.
Something in the memory. Whoa.
Petit problème technique, j'ai l'impression. Mais merci à nos... Ah non, ça marche. Merci à nos invités Dominique Jubin, Judith Louis, David André, Philippe Arachingui. Je rappelle que votre film Héritage va être projeté dans quelques minutes ici même à la gare du Midi de Biarritz. Ça, c'était pour aujourd'hui, mais demain... Demain, il faudra attendre lundi pour une émission musique et scène belge avec Nico Mully et Alain Platel. Ce sera Mélanie Debiasso pour la session musicale.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Xavier Martinet, Benoît Lagan, Aïssatou Ndoye, Elodie Royer et Mathieu Conquet. Réalisation Thomas Beau et à la technique, aujourd'hui Benoît Jégou, Benjamin Perru, Olivier Cohen, chargé de production Rémi Gouriou.
Merci à toute l'équipe du FIPA pour leur accueil chaleureux et leur précieuse collaboration. Merci au public qui est venu dans cette salle de la gare du Midi. Et puis mention spéciale bien sûr à Gaël Michel.